Donc, comment soutenir, accompagner la réussite des élèves? Une des idées qui nous a guidés dans ce libellé de recherche, ça a été de dire, bon, le soutien, on peut imaginer à peu près ce que c'est, les dispositifs de soutien, on imagine aussi, mais au fond, c'est pas parce qu'il y a des dispositifs que ça soutient, ce qui est une manière de reprendre ce qu'a dit Laurent jusqu'à présent, et la façon de dire qu'est-ce qui soutient les élèves d'une certaine manière dans les dispositifs, peut-être malgré les dispositifs, ou qu'est-ce qui ne les soutient pas dans les dispositifs, nous paraît une façon à la fois moins institutionnelle et donc moins enfermée de poser la question, en s'intéressant vraiment à ce qui soutient, et étant entendu que ce n'est pas facile du tout d'essayer de le comprendre et de le mettre en évidence. Alors vous aurez droit à un plan en trois parties, bien sûr, se demandera dans un premier temps, mais au fait, pourquoi faut-il soutenir les apprentissages? Pourquoi est-ce qu'ils ne se soutiendraient pas tout seuls? Et pourquoi y a-t-il besoin de ça? Dans la deuxième partie, je ferai quelques hypothèses devant vous sur quelque chose que nous sommes en train de travailler, en particulier avec Elisabeth Bautier, qui n'est pas là aujourd'hui et qui n'a pas de H dans son nom, heureusement elle ne l'a pas vu, et qui travaille avec moi sur cette question des registres. Voilà, donc je vais essayer de dire deux ou trois choses en espérant qu'elles ne soient pas trop embrouillées, en tout cas la manière de le dire. Et ce qui débouche évidemment sur une question pédagogico-pratique, mais alors quels élèves soutenir et est-ce que c'est la même manière de les soutenir tous, puisque, et je partage totalement ce qu'a dit tout à l'heure Laurent, par l'idée de soutien, nous globalisons en général hein, le fait qu'il y a du soutien, il faut soutenir, sauf que il n'est pas du tout certain qu'il faille soutenir les mêmes personnes de la même manière, surtout s'il n'y en a pas diagnostiqué auparavant ce qu'il y a à soutenir chez eux. Je crois qu'il y a là quelque chose qui paraît assez élémentaire. Moi, j'étais assez longtemps enseignant du second degré, je suis dans l'enseignement supérieur aujourd'hui. Je ne sais pas toujours et même souvent ce qu'il faut soutenir chez les élèves et chez les étudiants. Je sais qu'il faut soutenir et qu'il faut voilà, un certain type de production, voire de productivité. Mais précisément, qu'est-ce qui doit être soutenu? Ça, c'est quelque chose qu'en général, on ne sait pas. C'est un peu embêtant quand le soutien est devenu un peu la panacée hein, et un mot d'ordre très, très régulièrement rappelé. Alors, le premier point dont je partirai, c'est que pourquoi faut-il soutenir les apprentissages? Parce que, alors ça a l'air tout bête, mais au fond, on n'apprend pas à l'école comme on apprend ailleurs. Voilà. Je crois que c'est quelque chose qui mérite d'être rappelé, surtout aux enseignants, parce que comme ils ont toujours en général bien appris à l'école, vous savez ce qu'on dit, hein, je crois que c'est des bachelards, les professeurs de mathématiques ne comprennent pas qu'on ne comprenne pas, bien sûr, y a là une première difficulté importante. Parce que quand on est tombé tout petit dans la forme scolaire, pour parler comme des Lyonnais célèbres, Guy Vincent, etc., on n'imagine plus ce qu'est l'état de gens qui ont besoin de boire de la potion en forme scolaire pour réussir. Y a une naturalité totale. Or, l'apprentissage à l'école, alors bon, si j'emploie la notion de forme scolaire, c'est parce qu'elle a été travaillée auparavant et qu'elle montre bien comment, elle ne remonte pas au XVIIe siècle, on en trouve des exemples chez les Sumériens, etc., où les élèves ont des devoirs du soir à faire, ils emportent une tablette à la maison, ils demandent, il y a une tablette sumérienne dans laquelle on voit un élève demander à son papa de réveiller tôt le lendemain parce qu'il va y avoir un terreau. La différence, c'est qu'il prend des coups de canne quand il sait pas faire. Bon, en général, chez nous, ça a été proscrit, bien en général, mais on voit bien qu'il y a une manière spécifique d'enseigner à l'école, avec un type d'exercice, avec des lieux, avec des personnels dédiés, etc., qui n'est pas la façon qu'on a quand on apprend dans sa famille la pâte à crêpes, pour faire un doublon avec ce qui était supposé s'enseigner dans les UFM à l'époque, qui relève de types de rapports à l'apprentissage extrêmement différents. Alors ça paraît tout à fait banal, je crois que ça n'est pas du tout et qu'on ne se rappelle jamais suffisamment ça. Pour employer encore des gros mots, hein, emprunter aux didacticiens, je vous le fais très vite et s'il y en a dans la salle, ils vont m'arracher les yeux. Les savoirs appris à l'école sont en général des savoirs qui sont des savoirs savants transposés, hein, qui sont pliés à l'usage scolaire avec à la fois des simplifications, des manières de les lisser dans le temps, de les tronçonner pour pouvoir opérer des vérifications, etc. Donc il y a toute une mise en forme du savoir qui n'est pas le vrai savoir. Voilà. Le savoir qu'on apprend à l'école, ce n'est pas le vrai savoir. C'est pas le vrai, c'est-à-dire lequel. Évidemment, c'est un vrai savoir, mais c'est pas le savoir qui a été d'abord découvert par des gens qui ont dit c'est un savoir. Il y a ce que les didacticiens appellent aussi les contrats didactiques, c'est-à-dire que les élèves et les enseignants sont dans un système de relations, un système d'attente réciproque, dans lequel les élèves doivent prendre l'habitude d'être interrogés sur des questions sur lesquelles ils n'ont pas forcément la réponse par des gens qui, eux, ont la réponse. Voilà. Dans la vraie vie, ça, c'est une espèce de torture mentale ou de sadisme. Si vous le savez, pourquoi vous me le demandez ? À l'école, il faut au contraire absolument intégrer l'idée que les gens qui posent des questions sont les gens qui ont les réponses. Et que c'est pour votre bien qu'on pose des questions auxquelles vous n'avez éventuellement pas de réponse. C'est un peu compliqué comme démarche. En général, on s'y fait assez vite. Surtout si on a pris la potion quand on était petit et qu'on vous en a administré déjà dans la famille. Et ça, évidemment, c'est pas tout à fait acquis. D'où le fait qu'il y a des élèves qu'on appelle, j'emprunte le mot à Stéphane Bonnery, qui lui était écrit tout à fait avec l'accent sur le « comme il aime bien qu'il soit », rien à dire. Stéphane Bonnery qui parle d'élèves plus ou moins connivants. Stéphane Bonnery travaille en ce moment sur la littérature de jeunesse. C'est un objet tout à fait intéressant parce que c'est un objet qui a été longtemps tenu à l'écart du monde scolaire, qui faisait l'objet d'apprentissage, effectivement, dans le monde extrascolaire en la famille. Les histoires qu'on lit le soir, hein, en général, c'est les mamans, voilà, c'est comme ça. Et la grande différence dans les années, pas si longtemps que ça, c'est qu'elle est devenue un objet scolaire, avec du coup une sorte de mise en concurrence. C'est-à-dire que la manière à la fois dont on choisit les bandes dessinées, qu'on les achète à Carrefour ou à la Fnac, c'est pas exactement les mêmes, et la manière dont on va attirer l'attention. Voilà, Stéphane fait en ce moment des enregistrements de parents faisant la lecture le soir, il faut déjà y arriver, et on voit assez facilement que tout l'étayage, précisément, pour entrer dans le sens de ces bandes dessinées, la vision plutôt moralisatrice, la vision plutôt iconographique, la vision plus ou moins tout ce qu'on peut imaginer, sont extrêmement différenciateurs, selon les milieux sociaux, on pouvait s'en douter, hein, et sans doute créer des habitudes de lecture, d'appréhension de la chose écrite, de la chose dessinée, qui vont peser pendant longtemps dans les apprentissages. Donc, il y a des élèves qui sont déjà connivants de ça, qui apprennent à se poser des questions, et pourquoi petit ours brun, on lui demande ceci et cela, au lieu d'apprendre la leçon de morale, il y a des manières tout à fait spécifiques et plus ou moins proches de la façon d'être à l'école par la suite. J'ai trouvé assez récemment ce texte d'André Gide, dont je vous ai écrit un petit extrait, parce qu'André Gide, bon, je crois qu'il a quand même il a réussi relativement ses études et apprendre à écrire, mais il y a eu un moment de sa scolarité, c'est intéressant quand les gens ne réussissent pas alors qu'ils devraient réussir, un moment de sa scolarité, je crois qu'on l'a fait sauter une classe, il arrive dans un établissement où l'école est déjà commencée, toujours très dur d'arriver quand ça a commencé, vous êtes bizuté, etc., vous êtes regardé un peu de haut, et l'instituteur, c'était un vrai instituteur à l'époque, hein, l'instituteur travaille sur les synonymes, et il demande à un moment donné de donner un synonyme de coudrier. Alors, évidemment, vous savez tous que c'est noisetier, moi je l'ai oublié. André Gide ne sait pas répondre à la question. Voilà. Ma stupidité avait mis en joie toute la classe. Si j'avais voulu me tailler un succès, il m'eût été facile au retour de ma pénitence, lorsque M. Vedel, l'instituteur en question, m'ayant rappelé, me demanda pour la troisième fois le synonyme de coudrier, de répondre chou-fleur ou citrouille. Mais non, je ne cherchais pas le succès, et il me déplaisait de prêter à rire. Simplement, j'étais stupide. Peut-être bien aussi que je m'étais mis dans la tête de ne pas céder. Non, pas même cela. En vérité, je crois que je ne comprenais pas ce que l'on me voulait, ce que l'on attendait de moi. Donc, on n'est même pas dans la culture de la résistance, comme ont pu le théoriser certains sociologues de l'éducation. On n'est pas dans de la frime, dans le fait qu'on va jouer le pitre pour amuser la classe aux dépendances. Pas du tout. Pas du tout ces stratégies hyper élaborées qu'on apprend très vite quand on arrive au collège. On est vraiment, je suis stupide. Je ne sais pas parce que je ne comprends tout simplement pas ce qu'on me demande. Parce que le monde du coudrier ou du noisetier, qui m'est par ailleurs entièrement connu, quand je suis un petit rural à l'époque, je n'arrive pas tout simplement à comprendre ce que c'est un synonyme, et même quel est l'intérêt de savoir ce que c'est un synonyme. Donc le cas de la grammaire est tout à fait intéressant, parce que la grammaire est quelque chose qui vient doubler la langue naturelle d'un point de vue métalinguistique, qui est une posture tout à fait spécifique. On peut parfaitement vivre sans grammaire. On peut parfaitement communiquer sans grammaire. La grammaire est un objet scolaire, je vous renvoie aux travaux de Chervel, hein, qui sont extrêmement intéressants en la matière, et qui va changer tout simplement le regard sur le monde, les choses et la signification des choses, va donner un point de vue méta, hein, qui est, comme par hasard, une des armatures de la manière de connaître et d'apprendre à l'école aujourd'hui, puisqu'elle est très largement métalinguistique, que ce soit les mathématiques, que ce soit le langage, tel qu'il est travaillé dans les disciplines littéraires, hein, il y a là, je crois, une clé de voûte, et qui peut mettre en échec, y compris de futurs bons élèves, comme André Gide, à un moment un peu de mou, je dirais, dans leur propre carrière, où il leur manque un code, hein, un détail sur, mais au fond, à quoi ça sert de faire la grammaire. Alors, il ne suffit pas non plus de dire aux élèves que ça sert à quelque chose pour que ça marche, mais on peut comprendre que le fait de ne pas le savoir est véritablement ennuyeux. Si on essaie de se demander pourquoi ces étayages sont nécessaires, et je me greffe immédiatement sur ce qu'a dit Laurent précédemment, parce que je crois qu'il y a là une ligne de démarcation. Alors, ce que je vais dire va être assez caricatural, et les piégéciens convaincus, j'espère, ne m'agresseront pas à la sortie, parce que Piaget a apporté beaucoup aussi, évidemment, à la connaissance des processus de construction d'intelligence. Mais je crois qu'il y a là une ligne de clivage importante. Je vous renvoie, parce que c'est une de mes dernières lectures, au bouquin assez récent de Marie-Claude Blais, Marcel Gaucher, Dominique Ottavi, « Transmettre, apprendre », dans lequel il y a tout un chapitre qui est consacré à une confrontation entre Piaget et Vygotsky. Ils disent Piaget, c'est une embryologie de l'intelligence, alors que Vygotsky, c'est une sociogénèse de la pensée. Ouais, ça, on est bien, parce que on avait peut-être l'impression qu'on comprenait jusque-là, à partir là, on se demande. L'idée qu'il s'agisse d'une embryologie de l'intelligence, c'est tout simplement lié au fait que Piaget, comme vous le savez sans doute, est à l'origine un biologiste. Il travaille sur des petites bestioles qu'il y a dans le lac de Genève, je crois, des espèces de coquillages. Voilà, je ne suis pas fort en coquillages du tout, mais je sais qu'il est biologiste et qu'il va, au fond, essayer d'appliquer les schémas, peut-être même dire les schèmes, pour lui emprunter à lui-même, d'intellection de la biologie et de ce que c'est l'intelligence animale, comme manière de s'adapter, hein, voilà, il y a une assimilation, une accommodation, etc. Il va emprunter des schémas d'adaptation biologique pour rendre compte de manière assez convaincante de ce que c'est les apprentissages en général, et y compris les apprentissages intellectuels, qui ne sont pour lui qu'une catégorie, je crois d'ailleurs qu'il a raison, hein, sauf à croire qu'il y a une transcendance et des idées innées, mais enfin on n'est plus trop là, qui sont qu'une catégorie de manière d'être animal et de savoir se débrouiller dans la vie. Le problème, c'est que ce qui va faire clivage avec quelqu'un qui vit à la même époque, mais qui a d'autres arrière-plans philosophiques, je pense évidemment à Vygotsky, c'est que c'est au fond la notion de milieu pour Piaget est très souvent une sorte de, alors je vais peut-être exagérer, de décor dans lequel ces schèmes se développent, dans lequel une espèce de développement de la pensée un peu irrépressible. Alors certes, l'enfant rencontre les autres. Il y a même ce qu'on a appelé voilà, les obstacles socio-cognitifs qui vont accélérer les franchissements d'étapes. Si un enfant n'est pas conservant, s'il ne voit pas qu'un morceau de fil de fer déformé, en réalité c'est le même que ce qu'il était auparavant, mais on l'a juste déformé, on voit bien apparaître des moments dans lesquels les enfants sont capables d'accéder à cette idée d'autre pas. Et s'il est confronté à d'autres, il va gagner du temps avec ça. Donc les autres existent, sauf que les autres sont des occasions de me confronter à moi, ils ne sont pas des éléments structurants de ma propre démarche. Alors ça peut être des nuances qui peuvent paraître tout à fait subtiles, mais je crois qu'elles ont une importance absolument capitale dans ce qui va suivre et pour la pédagogie. C'est plutôt la posture de Vygotsky, parce que pour lui, la pensée, elle fait l'objet non pas d'un développement comme celui de l'embryon, une espèce de poussée interne, naturelle, qui se confronte à un monde extérieur et qui s'adapte à lui, et qui crée des catégories qui vont avec, ce qu'il appelle des schèmes. C'est une pensée qui se construit véritablement socialement, avec cette phrase extraite de Pensée et langage qui est souvent citée, qui je crois est assez importante. Chaque fonction psychique apparaît deux fois au cours du développement humain. Enfin, on apprend deux fois, d'abord comme activité collective, sociale, et donc comme fonction interpsychique, c'est-à-dire entre des personnes. Puis elle intervient une seconde fois comme activité individuelle, comme propriété intérieure de la pensée de l'enfant, comme fonction intrapsychique. Alors, ce que vous dit Vygotsky, c'est l'enfant, il dit d'abord, il va employer des formules impersonnelles, hein, ça marche, ça parle, je ne sais quoi, ou les adultes ils disent ça, et il arrive un moment où, c'est ce qui a été étudié par Vallon, entre autres, dans la suite, hein, ces crises du moi qui se constituent. Les enfants n'arrêtent plus de dire « je », c'est extrêmement agaçant quand on est parent, parce qu'ils s'opposent à tout et qu'ils veulent que les choses ne viennent plus que d'eux-mêmes. Ça, c'est la deuxième période, hein, la période dans laquelle ce qui était en jeu, qui circulait notamment par le biais du langage entre les adultes, devient une pensée intériorisée. Et on a deux mouvements inverses. Piaget vous dit l'enfant, il est d'abord égocentrique, il se socialise après. Vygotsky vous dit exactement l'inverse, alors à vous de choisir. L'enfant est d'abord un être social qui n'a pas cette pensée individuelle, individuée. Il va la construire progressivement, et de manière paradoxale, grâce à autrui, mais par intériorisation de ce discours d'autrui. Ce qui veut dire que, et vous comprenez sans doute là le titre du bouquin des trois collègues que j'ai cités, c'est que la question de l'apprentissage, pour eux, ne peut pas se poser indépendamment de la question des transmissions. Et ce qu'il pense, c'est que le modèle piagétien, on peut dire la mode piagétienne, qui s'est fortement diffusée en pédagogie, parce que Piaget, outre qu'il était un biologiste et un psychologue, en tout cas un épistémologue de la connaissance éminent, est aussi quelqu'un qui a beaucoup œuvré dans des instances pédagogiques du côté de Genève, etc., qui ont beaucoup diffusé dans les milieux éducatifs, même si ce n'était pas le cœur de l'école, en tout cas ça a beaucoup formé de gens. Et cette idée que les enfants construisent leur savoir, qui est sans doute une idée pertinente, mais pose la question, ils le construisent tout seuls ou ils le construisent à partir de quelque chose qui est déjà là et qui pèse considérablement sur ce qu'ils ont à construire eux-mêmes. Voilà. Donc c'est sur ces nuances théoriques que vont se distinguer et sans doute même diverger, voire s'opposer, des théories de l'apprentissage. Et nous, je crois assez clairement, dans notre laboratoire, nous penchons évidemment davantage pour la question de la sociogenèse et donc nous sommes sensibles à ces questions de langage comme stock, de signification, comme stock culturel venant parfois de très très loin et qui peut mettre en échec les élèves si précisément ces modalités d'héritage et de transmission ne leur sont pas facilitées par le biais de ce qu'on peut appeler étayage, soutien, accompagnement selon les cas. Donc je crois qu'on n'a pas de difficulté avec après ces menus monnaies pédagogiques, je dirais, de ce phénomène fondamental qui est celui de comment on devient humain, comment on s'hominise, d'abord en intériorisant un héritage culturel qui n'est pas dans nos gènes, contrairement à ce qu'on essaie de dire parfois, y compris aujourd'hui, mais qui est effectivement le fait d'avoir à intérioriser quelque chose qui d'abord est extérieur et nous préexiste. Donc, une des conséquences de ça chez Vygotsky, c'est que l'apprentissage n'est pas une conséquence du développement, c'est plutôt l'inverse. Le développement individuel va être une conséquence de l'apprentissage. Vous voyez, on est dans des phénomènes d'inversion qui sont quand même assez importants et significatifs. Dans le cas de la grammaire, par exemple, et ça renoue, c'est pourquoi j'ai eu cette idée de vous présenter ce petit extrait de Gilles, dans le cas de la grammaire, le fait d'apprendre la grammaire va susciter d'autres types de développements que ceux que vous auriez eu si vous n'aviez pas appris la grammaire. Le fait d'apprendre la grammaire, encore une fois, ne permet pas à lui seul de parler, de communiquer, mais il va induire des types de catégorisation du monde, d'abstraction, de schématisation, auxquels vous n'accéderiez pas si vous n'étiez pas capable de voir qu'il y a des fonctions. Lorsque M. Jourdain n'est pas capable de distinguer la poésie et la prose, et qu'on lui donne le gain de la partie en lui disant « Ok, vous avez raison, comme c'est vous qui payez, de toute façon, le client est roi, donc vous avez toujours fait de la prose. » Lorsque vous dites « Antoinette, allez me chercher mes chaussons », etc. Sauf que le concept de prose et de poésie n'est évidemment pas compris par M. Jourdain, parce qu'on est là dans un dédoublement du monde, dans une manière d'opérationnaliser différemment le monde en distinguant des catégories d'analyse qui ne sont pas dans la langue naturelle, mais qui structurent la langue naturelle, et qu'on peut passer sa vie à ne jamais voir, bien évidemment, mais c'est aussi un pouvoir sur le monde et sur les choses qu'on n'aura pas non plus. C'est un vibrant plaidoyer pour la grammaire. La question qui se pose, et là on rejoint aussi des choses qui ont été dites en termes de rapport au savoir, qui ont été théorisées en effet par, alors dans l'ordre, Charlot Bautier-Rochex, voilà, 92, et puis par Charlot tout seul après le rapport au savoir, et puis par Re-Charlot, le rapport au savoir en milieu populaire qui portait sur les lycées professionnels. L'idée de ses collègues était que... Il y a une sorte d'illusion qui a été partagée à la fois par les forces politiques de notre pays, mais aussi sans doute par la recherche et par le corps enseignant, etc., l'éducation nationale. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et du glorieux programme du Conseil national de la résistance, pour lequel on a parfois une certaine nostalgie aujourd'hui, ça a été de dire on va tous ces enfants qui n'ont pas eu accès à l'enseignement secondaire, notamment et évidemment au supérieur, parce que pour des raisons de capital, ou parce qu'ils étaient tout simplement obligés de travailler, et pour des raisons de capital économique, on les remettait rapidement à la production, et parce qu'on estimait qu'il n'y avait que les futurs dirigeants qui avaient droit à une culture générale de haut niveau. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va, vous connaissez comme moi tous les réaménagements progressifs de l'école moyenne et puis du second degré, on va unifier toute cette mosaïque de post-école primaire qui existait jusque-là, on va faire le collège unique. On va y mettre tous les enfants et on aura démocratisé l'école. Alors on achète le 128 de Pierre Merle sur la démocratisation scolaire, on revient assez vite de cette douce et aimable illusion. Évidemment, alors certains parlent de démographisation, de démocratisation quantitative versus qualitative, ou de démocratisation ségrégative, tout ça veut dire la même chose. C'est pas parce qu'on expose les élèves au savoir, comme si on vous expose au soleil, vous allez bronzer. Il y en a, on peut les mettre au savoir, ça bronze pas du tout. Pas simplement parce qu'ils sont en 93 et pour d'autres raisons, ils bronzent pas du tout parce que le savoir, c'est pas par imprégnation directe, c'est par des voies beaucoup plus complexes d'assimilation de cet héritage. Et si vous voulez, les élèves sont confrontés au savoir avec des prismes dont ils sont déjà largement porteurs quand ils arrivent à l'école et qui ne sont pas les mêmes. Là aussi, ces collègues-là, à mon avis, ont aidé à dissiper une illusion, celle selon laquelle, par exemple, à l'école primaire, il y a zéro problème. D'abord, on avait la meilleure, pour ne rien dire, de l'école maternelle, qui faisait que tous les élèves admis dans cette école-là depuis des dizaines d'années étaient formés normalement de la même manière. Les choses se corsaient un peu au collège, sans doute parce qu'il y a des profs un peu élitistes et que c'est la culture humaniste, mais c'est là que ça se déglingue. Bon, les recherches montrent que non, ça n'est pas vrai du tout, que les choses commencent extrêmement tôt. Pourquoi ? Parce que les enfants ne sont pas des cireux vierges qui arrivent à l'école et qui boivent les paroles du maître par le même entonnoir. Ils sont déjà très largement préformés dans leur chaîne d'apprentissage et opèrent des effets de distorsion extrêmement importants par rapport au discours qui leur est servi exactement le même. Comme quand les parents disent « Mais moi, j'ai deux enfants, je les ai élevés pareil. » Ben oui, non, sauf que c'est pas la même époque, c'est pas les mêmes, etc. Alors, parmi les notions qui sont un peu travaillées à ce propos, c'est l'idée d'externalisation. Comme Laurent en a parlé, je vais pas insister, mais un des problématiques très certainement de l'organisation scolaire aujourd'hui, c'est l'externalisation du travail des élèves. À savoir que les moments où les élèves sont supposés être actifs, dans le moment où ils mettent en jeu leurs propres capacités et compétences, en même temps qu'ils les forment d'ailleurs, ils sont seuls. Il y a donc, de manière assez caricaturale, des moments où c'est l'enseignant qui travaille, les élèves qui peuvent avoir une attention au moins de façade et faire leur métier d'élève de manière à peu près convenable. Et puis après, les élèves sont censés travailler, les enseignants ne sont plus là. C'est un peu ennuyeux parce que les enseignants ne savent pas, n'ont pas de prise d'indice sur pourquoi ils travaillent bien ou pas bien. C'est dévolu à d'autres personnes qui peuvent avoir, alors là on peut ouvrir la gamme à l'infini, Dominique Glassman est un des premiers à l'avoir fait, en inventoriant les types d'aide, de soutien, de mise bout à bout, etc., etc., dans lesquels, moi mon point de vue, c'est que on s'intéresse beaucoup plus des questions de statut d'adulte, à savoir qui a le droit de faire quoi et qui empiète sur les plates-bandes de qui, plutôt que de comprendre quel est le processus qui fait que l'élève, une fois qu'il est livré à lui-même et à des exercices qu'il n'a peut-être pas forcément déjà faits et pour lesquels il ne voit pas forcément à quel endroit du cours ça se réfère, alors que pour l'enseignant c'est évident, comment il se débrouille, avec quoi il fait et comment il fait. Donc cette externalisation du travail, qui a un petit rapport avec l'externalisation dans le monde économique, si vous avez des chaînes de production qui sont disséminées sur la planète, il faut qu'il y ait un bureau d'études central. Il n'est pas sûr que les opérateurs maîtrisent la totalité de la chaîne. L'idée, c'est qu'il faudrait réinternaliser ce travail. Et sans doute qu'une partie importante du soutien, c'est en tout cas nous ce que nous croyons, elle porte sur la question de la réinternalisation. Mais ce n'est pas facile. Et par exemple, les internats, dont le nom vient à point pour réinternaliser les choses. On a un peu travaillé sur les internats d'excellence. Nous ne sommes pas convaincus qu'ils aient été capables de réinternaliser le travail des élèves, alors même que les élèves étaient présents dans les internats. C'est-à-dire que l'internat, ce n'est pas une question d'espace. L'internalisation, ce n'est pas une question de lieu. On peut internaliser à l'extérieur, on peut externaliser à l'intérieur. Donc là aussi, se méfier des appellations abusives, l'internalisation doit regarder les types d'appropriation cognitive des élèves et se demander s'il y a vraiment une continuité entre les moments où on est normalement passif, quand on est dans du guidage, parce qu'on ne voit pas comment il peut y avoir d'éducation sans guidage, et les moments dans lesquels on est dans d'autres types d'activités, le problème étant que les enseignants et les élèves ne savent jamais toujours dans quel type d'activité ils sont. Plusieurs chercheurs ont réfléchi aujourd'hui sur le cours dialogué, qui paraît un compromis, mais un compromis boiteux, parce que dans le cours dialogué, je ne suis ni dans de la dévolution de problèmes qui est aujourd'hui censé, à la suite des travaux didactiques, pénétrer toutes les pédagogies, les élèves ne sont jamais assez actifs, voilà. Mais en même temps, si on les laisse actifs, on finit jamais le programme, donc ça c'est pas possible. Donc on a un schéma, on va poser des questions, on va interroger les élèves qui savent répondre, les autres un peu, sauf quand on voit que le temps tourne, comme moi, mais au bout du compte, il faut quand même qu'on va ouvrir le tableau et la leçon est écrite, et il faut que les choses soient faites comme elles auraient dû être faites. Donc il y a cette espèce de nébuleuse du cours dialogué qui essaie de tenir tous les bouts, mais qui en réalité, je crois, n'en tient aucun, parce qu'on ne sait pas dans quelle activité on est. Feu les travaux personnalité des élèves, en termes d'évaluation au baccalauréat, et quand c'est pas au baccalauréat, c'est comme si ça n'existait plus, on montrait toute la difficulté qu'il y avait, les déplacements de rôle professionnel, l'entrée en scène du documentaliste comme personnage extrêmement compétent pour faire des choses que les enseignants ne savaient pas faire, etc. etc. On pourrait développer ça, je ne le ferai pas. Contrat didactique différencié, c'est une notion qui a été travaillée par Jean-Yves Rochex en particulier, dans le dernier bouquin qu'il a fait avec Jacques Crinon, La construction des inégalités scolaires, la presse universitaire de Rennes, pour faire la pub. C'est l'idée qu'il y a des contrats didactiques, comme le disent les didacticiens, parfait. Je crois que c'est Maria Schubauer-Leoni qui, la première, a émis l'idée de contrat didactique différencié. C'est-à-dire qu'il y a contrat didactique, mais dans la même classe, en fait, coexistent au milieu des élèves des contrats didactiques qui ne sont pas les mêmes pour les uns et pour les autres. Vous donnez une leçon à apprendre, vous dites j'ai donné la même leçon, oui, sauf que apprendre une leçon, ça ne veut pas dire la même chose pour tous les élèves. Dans notre équipe, un doctorant Julien Néter a travaillé là-dessus. Il va voir des élèves après, ça tranquille de qu'est-ce qu'il y avait dans le cours, etc., etc. Et on voit bien que pour beaucoup d'élèves, apprendre une leçon, ça ne signifie pas la même chose. Les enseignants un peu pressés, les élèves, alors il y a plusieurs dispositifs, c'est soit garçon de café, c'est-à-dire les élèves vous appellent, soit ce que j'appelle poissonnerie, vous tirez un ticket et vous venez au bureau de l'enseignant. Au bout d'un moment, l'enseignant il craque parce qu'il y a une foule, monsieur, dame. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il y a la moindre faille dans la leçon qu'il fait avant, tu la sais pas, tu vas la reprendre. L'élève retourne besogneusement, patiemment reprendre le son, avec l'idée que pour lui apprendre la leçon, c'est l'apprendre par cœur. Ce qui est en effet une manière d'apprendre la leçon, c'est sans doute pas la seule, je vous la fais pas, vous devinez la suite. Alors, sinon je ne vais pas vous parler de ce dont je vais vous parler. S'il y a des contrats, si vous me suivez toujours, didactiques différenciés, ça suppose qu'il doit y avoir des soutiens différenciés, et ça suppose qu'on doit savoir dans quel contrat didactique fonctionne l'enseignant et l'élève. Pour ça, nous faisons l'hypothèse extrêmement hardie qu'il y a des registres de l'apprentissage et que c'est peut-être un des moyens de démonter cette question des contrats différenciés. Et je vais essayer de vous montrer ça tout de suite avec des dessins qui ne sont pas aussi jolis que ceux de Laurent. Mais bon, je lui demande quel est son logiciel. Voilà, la chose toute bête de départ, c'est qu'il y a un registre scolaire de l'apprentissage. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a une manière d'apprendre à l'école. Manière qui, à la fois, protège. Si vous apprenez à l'école, vous trompez dans un problème de robinet, vous n'inondez pas l'appartement. Ça, c'est extrêmement intéressant. Vous calculez mal les trains, c'est pas comme quand ils passent pas dans les gares parce qu'on n'a pas bien calculé. Ça, c'est la manière d'apprendre à la SNCF ou à Réseau Ferré de France. Il y a des ennuis, ça coûte très cher. Vous faites ça à l'école, c'est pas très grave. Sauf si c'est le jour de l'examen. Mais enfin, on vous prépare pour ça. Et c'est pas vous ne mettez pas en danger la société. Donc, il y a un registre scolaire qui est fait. Alors, quoi il est fait? Pour nous, il est fait d'abord de ce qu'on appelle le cognitif. À l'école, on va... Alors, ce qu'il faut voir, c'est que... c'est ce que Dominique Glassman appelle le mystère de la Sainte Trinité, parce qu'il va y avoir trois registres, mais qui n'en font qu'un. Moi, j'appelle ça le 3-en-1, c'est une version plus laïque et un peu plus dégrippante. Mais l'idée, c'est quand même toujours la même, c'est que l'école, elle est elle-même l'importation et la sélection de choses qui lui sont extérieures. C'est bien pour ça que c'est difficile. Si l'école vivait en circuit fermé, on maîtriserait. On ne maîtrise pas parce qu'elle se nourrit de choses qui la précèdent et avec lesquelles il faut qu'elle vive et qu'elle fasse vivre les élèves, surtout. Donc, il y a du cognitif. C'est pas pareil à toutes les époques. Il y a du cognitif tout le temps, mais c'est pas toujours le même. Le cognitif dans lequel nous vivons aujourd'hui est un cognitif qui, pour parler comme Max Weber, relève du rationnel légal. C'est-à-dire qu'à l'école, on doit rendre raison de ce qu'on dit, de ce qu'on fait. Les élèves ont le droit de vous demander pourquoi vous faites des fautes au tableau. peut-être que les enseignants le prennent mal, mais enfin, en principe, ils ont le droit, s'ils vont devant un tribunal, ils peuvent gagner. Vous êtes censé justifier, parce que les règles qui s'imposent à eux s'imposent aussi à vous. Voilà, ça, c'est fait partie. On a le droit, aujourd'hui, à l'école, pour l'instant, en tout cas, d'enseigner le darwinisme, d'enseigner, en tout cas, l'évolutionnisme. Peut-être que ça ne durera pas toujours. Il y a des États aux États-Unis dans lesquels ce n'est pas certain, mais dans notre système à nous, le cognitif, il est largement inspiré des révolutions scientifiques du 19e siècle en particulier, mais pas seulement, qui font que c'est rentré. Je crois, c'est un peu réducteur ce que je dis, alors évidemment chaque registre va créer un élève idéal pour l'enseignant et pour l'enseignement. L'élève idéal en la matière, il est surtout méthodique, c'est un peu ce que dit Marcel Gaucher, et pour lui d'ailleurs c'est une critique. On insiste beaucoup sur les méthodes aujourd'hui, ça rejoint ce que disait aussi Laurent tout à l'heure, où il s'agit de savoir s'orienter, d'avoir des procédures extrêmement fermes. Ça a été, je crois, quelque chose qui s'est beaucoup développé en français, je ne sais pas si c'est toujours le cas, au moment où on a appris beaucoup de formules de la rhétorique, où les élèves devaient apprendre au bac, la différence entre convaincre, persuader, où certains disaient « on vit de la littérature de son sens, on veut que les élèves aient un appareil théorique dans lequel ils distinguent la métaphore, la métonymie, la synecdoque, etc. etc. » Bon, ce que les élèves pouvaient apprendre. Alors, deuxième aspect, il y a du culturel. Il y a du culturel parce que l'école elle est elle-même, évidemment, dans un univers qui la dépasse. Autant le premier domaine relevait sans doute de la transposition didactique des savoirs savants en savoirs scolaires, le deuxième relève sans doute davantage de la transposition de ce qu'un autre didacticien, Jean-Louis Martinan, appelle les pratiques sociales de référence. Par exemple, le sport à l'école est une transposition, d'ailleurs, ce n'est pas le sport, c'est l'éducation physique et sportive. C'est pas la même chose. Pratiquer le sport de compétition dans le club le mercredi après-midi n'obéit pas aux mêmes règles, ne vise pas les mêmes finalités que l'éducation physique et sportive. Voilà. Ça méritait d'être dit, parce que souvent on le sait pas, et c'est pas facile du tout pour des élèves, souvent, de comprendre ça. Ils jouent dans le club de foot, ils marquent des buts, ils voudraient que ce soit pareil, à l'école, ils comprennent pas pourquoi, à cause des filles, on fait pas que du foot. Donc c'est une frustration totale. Il y a une transposition importante. Et ça, évidemment, l'école, elle retravaille ça à grand mal, mais c'est son boulot. Il y a aussi un autre aspect du culturel, c'est tout un ensemble d'autres aspects qui sont souvent ceux que Bourdieu aurait appelé ceux de la culture légitime, qui sont souvent jugés comme nécessaires pour la réussite à l'école et qui ne sont pas appris à l'école. Voilà, une des difficultés que Dominique Glassman a bien mis en œuvre dans ses travaux, c'est que l'école demande souvent des choses qu'elle n'apprend pas entre ses murs, et c'est sans doute un des vecteurs importants des difficultés et des inégalités d'apprentissage de nombre d'élèves. Alors, pour administrer une preuve assez rapide de ça, c'est que vous savez que dans beaucoup de tentatives de ce qu'on appelle la discrimination positive, lorsqu'on a fait les filières de l'ESSEC, la prépa racaille de Henri IV, les sciences politiques, etc., les internats d'excellence, qu'est-ce qu'on fait massivement? On donne à ces pauvres élèves des doses extrêmement importantes d'opéra, de musique légitime, de pratique. Bon, on laisse le djembé dans le quartier et on va essayer de les initier au partita de Bach. Voilà. Ça donne des résultats un peu curieux parfois, je ne m'étendrai pas. Mais il y a bien cette idée que le système scolaire ressent que pour vraiment y entrer et y réussir, il y a besoin d'apports qui sont des apports extérieurs, qui émargent à cette sphère culturelle. Alors l'élève, j'emploie ce mot à Philippe Collongeon, l'élève idéal, là, il est omnivore, parce que la distinction culturelle aujourd'hui, il y a un changement par rapport au moment où Bourdieu écrivait la distinction, c'est qu'il n'y a plus une correspondance, je dirais, classe à classe des pratiques culturelles, y compris les bourgeois s'encanaillent à faire du karaoké, à condition qu'ils n'oublient pas quand même que ce n'est pas les vraies valeurs. Et donc, il y a une forme d'omnivorité qui consiste à manger de tout, mais à savoir quand même qu'à certains moments, c'est ça qu'il faut mobiliser plutôt qu'autre chose. Donc l'élève idéal, il est omnivore, il peut très bien aller au conservatoire le mercredi, là aussi, pour apprendre l'agriculture, mais il n'est pas mauvais qu'il sache deux, trois choses, qu'il aime Stromae et qu'il connaisse deux ou trois notions de rap, qu'il peut mettre ça dans une dissertation, ça sera extrêmement bien vu. Alors, identité symbolique, c'est la troisième composante, je dirais. C'est que là, on a les registres au fond intellectuels, les cognitifs et culturels, mais le problème, c'est qu'il y en a un autre et qui n'est pas de moindre importance. C'est que pour apprendre à l'école, il ne faut pas être n'importe quelle subjectivité. Et que on oppose parfois l'élève à l'enfant, Là aussi, m'excuse, hein, mais je reprends la roue. Ce que l'école suppose, c'est qu'évidemment, les enfants et les jeunes se transforment en élèves et en étudiants. Et que c'est une véritable transformation, qui peut coûter très cher. Je vous renvoie au roman d'Annie Ernaux, hein, par exemple, hein, où on voit bien comment, ce qu'il faut abandonner, comment jouer avec les injonctions paradoxales des familles, qui réussissent, mais surtout restent comme nous. Ils l'ont précisément pour réussir, pour ne pas être comme vous, pas parler le même langage, pas avoir les mêmes rapports à toutes sortes de choses. Donc il y a une, ce qu'on appelle une identité symbolique, je pourrais développer pourquoi, mais j'aurais plus le temps, qui doit être travaillée. Et l'élève idéal, là, je m'appuie sur les travaux de Bernard Lahire, hein, l'élève idéal aujourd'hui, dans notre système actuel, dans notre système, il est autonome. Hein. Les enseignants se lamentent très souvent de ce que les élèves, cette année, ils ne sont pas autonomes. Hein. Alors, la 6e 2, cette année, ils ne sont pas du tout autonomes. Et quand les parents d'élèves viennent, vraiment, votre enfant, il n'est pas autonome. Alors, bon, je pense qu'on disait ça déjà les fournées précédentes, hein, mais on aime oublier le passé dans ce qu'il a de dérangeant. Néanmoins, il y a un lieu commun qui est partagé, c'est que les enfants devraient être capables de s'orienter dans la pensée, comme disait Kant, d'être eux-mêmes autoprescripteurs, de se débrouiller, d'avoir des idées, des sujets. C'est dans la lignée de ce qu'a été le changement de paradigme avec l'élève au centre du système éducatif, hein, 89-90, hein, loi Jospin, etc., où l'élève devient l'auteur de son propre savoir, l'auteur de sa propre orientation, hein, et qui après ne s'en prend qu'à lui-même si ça n'a pas marché. Là, ça commence à devenir un peu délicat. Mais cet idéal d'autonomie n'a pas toujours été partagé. C'est aujourd'hui une valeur centrale, hein, dans la définition. Vous voyez, je crois que le culturel, le cognitif et l'identitaire symbolique sont toujours présents, sauf qu'ils sont colorés différemment en fonction des époques, et qu'on pourrait d'ailleurs imaginez que de faire une histoire de l'éducation, un peu comme l'a fait Durkheim sur l'évolution pédagogique en France, en regardant comment ces registres se sont agencés différemment et constituent à chaque fois des configurations. Autrement dit, les registres, ils permettent de saisir à la fois la diachronie des programmes scolaires et des curricula, mais ils permettent aussi de saisir la synchronie pour un élève, c'est-à-dire à un moment donné, comment un élève se situe dans tel ou tel de ces registres. Je crois qu'il y a là peut-être un outil d'analyse grossier, mais qui fait que certains élèves peuvent être plus dans le culturel que dans le cognitif, plus dans le cognitif que dans le culturel, sont dans le mais ont une identité symbolique pas très bien assise comme élève et du coup ne comprennent pas l'école. Parce que le problème, c'est que ces registres n'existent pas à l'état séparé, ils sont tout le temps mélangés et qu'il y a des effets d'action et de rétroaction en permanence des uns sur les autres. Alors, là où les choses se compliquent un peu, c'est que ça bouge à l'intérieur de ces registres et qu'au fur et à mesure de la scolarité, ça devient de plus en plus exigeant. C'est ce que montre bien Stéphane Bonnery dans son travail sur comprendre l'échec scolaire, c'est que des élèves qui ont été dans un certain type de procédural, par exemple, c'est-à-dire qui ont bien fait ce qu'on leur disait de faire, qui ont rempli les fiches item par item, le jour où on leur demande « oui, mais non, mais ça ne suffit plus, maintenant il faut comprendre ce que veut dire la totalité de la fiche, et puis même il n'y a plus de fiches », ça commence à poser des difficultés parce que les procédures qui ont été apprises pour segmenter la difficulté et peut-être répondre à la question 3 avant la question 2 parce qu'on savait la réponse à la question 3, ça devient très difficile parce qu'on ne peut plus répondre à la question 3 si on n'a pas répondu à la question 2. Parce qu'on va vers des problématisations croissantes. Hein, comme disait Bachelard, à un moment donné, en géométrie, on peut montrer, après il faut démontrer, et ce n'est plus exactement le même geste intellectuel. Donc il y a une élévation du niveau de difficulté qui, comme par hasard, structure le curriculum. On va de plus en plus, c'est une des caractéristiques de notre système, et d'ailleurs d'autres, bien sûr, c'est qu'on va vers des choses qui sont, comme aurait pu le dire Piaget, je crois, dans son vocabulaire, des abstractions réfléchissantes, c'est-à-dire des abstractions d'abstractions. Vous pensiez qu'il y avait ceci et cela, mais non, il y a une structure qui permet. Hein, et d'ailleurs, quand il y a eu cette vague structuraliste dans les années 60-70, on s'est dit, mais oui, puisqu'il y a des structures qui permettent de subsumer les éléments, et qu'on peut toujours fabriquer de nouvelles structures à partir des anciennes structures qui structuraient les éléments, on va enseigner aux élèves, y compris de niveau populaire, les structures, comme ça ils seront aussi bons que les autres. Le problème, c'est que si vous voulez commencer par enseigner les structures sans les éléments, ça, au bout d'un moment, ça coince. Ça, c'est des réécritures d'adultes, hein, et on a vite ralenti le processus, aussi bien en mathématiques, mais qu'en histoire, hein, où on apprenait les structures agraires et plus du tout les pays, la chronologie, etc. En termes culturels, je crois que c'est un petit peu le même mouvement et qu'on peut utiliser la distinction fort opportune que nos collègues allemands, qui ne sont pas bons qu'en économie, mais qui ont aussi des concepts, ils font la différence entre Bildung et Kultur, avec l'idée que la Kultur, ce sont en effet des éléments patrimoniaux que vous apportez aux élèves, ça fait partie de la transmission, ça fait partie de l'héritage. Mais c'est pas ça qui ça suffit pas à former. Vous pouvez, comme dans les internats d'excellence, à un moment donné, dire on va faire un parrainage avec l'orchestre de Paris, les gens vont venir avec leurs beaux instruments, et puis on va faire venir les élèves au concert et les parents d'élèves, moyennant quoi ils viennent pas et on sait pas quoi faire des petits fours, parce qu'ils avaient fait la fête du lycée la veille, c'était bien plus intéressant. Donc ça, il y a une manière d'apporter de la culture qui, évidemment, on rejoint l'âne qui n'a pas soif, n'est pas formatrice en elle-même parce que la culture transforme. Voilà. Ce qui pose évidemment la question de l'identité symbolique. Encore faut-il que les élèves acceptent de se transformer, encore faut-il qu'ils acceptent de reconnaître une nouvelle identité dans ce qui leur est proposé. Et pour toutes sortes de raisons, que je serais très long si j'ai essayé de les évoquer, il est difficile de faire. Le troisième point, l'identité des élèves, elle bouge aussi. C'est une identité qu'on pourrait appeler identité empirique, c'est-à-dire une identité dans laquelle on fait très référence à leur propre vécu, à leur propre expérience, mais qui de plus en plus doit devenir une identité épistémique. Pour prendre des exemples qu'a pu travailler l'AIR en termes d'écriture, hein, demander à des élèves de faire une... On leur dit, voilà, racontez une journée de vacances. Alors, ils vont raconter une journée de vacances. Les élèves de milieu populaire vont faire des phrases extrêmement lapidaires, qui n'ont ni queue ni tête, qui pour eux signifient beaucoup, dans lesquelles il y a des tas d'allusions à des gens que vous ne connaissez pas, mais pour eux, ils les connaissent parce que c'est leur pépé, leur mémé, ou leur copain, ou leur voisin. Et ils sont très surpris d'avoir une sale note. Pourtant, ils ont bien raconté la journée de vacances. Le problème, c'est que raconter la journée de vacances dans une rédaction, ça passe par un moule formel qui est celui de l'école, dans lequel il y a une introduction, il y a des temps invraisemblables qu'on ne parle jamais dans la vie, qui s'appelle le passé simple en particulier. Quand les élèves s'y essaient, ça donne des résultats épouvantables. Il y a une conclusion, une leçon morale, etc. Et voilà, l'identité épistémique n'était pas donnée avec le livre en début d'année, et il faut l'acquérir à grand prix souvent. Ce qui fait que les carrières d'élèves peuvent se dérouler selon deux manières, selon une manière fixiste, qui donne à mon avis le secret de qu'est-ce qu'on dit quand un élève est trop scolaire. Voilà, ce qui est un paradoxe, hein, qu'avait déjà relevé Bourdieu, un élève trop scolaire, ça ne devrait pas exister. Et si, ça existe parce que le code implicite, c'est qu'il y a une évolution des registres qui va vers des exigences en termes d'abstraction croissante. Et que, ben, on voit bien comment les scolarités d'élèves vont diverger, il va y avoir des points de bifurcation. Ceux qui ont compris à un moment donné que la manière de faire, c'est plus la bonne, il y en a d'autres. Et c'est d'autant plus facile d'adopter l'autre qui l'avait déjà parce qu'il pratiquait le double code à la maison ou ailleurs. Hein, c'est des bilingues. Et que d'ailleurs, ils trouvent que ça devient plus intéressant maintenant quand on vous demande de réfléchir à un certain niveau. Et ceux qui... ont des positions fixistes, comme ces élèves étudiés longuement par Bonnery, avec ces aspects tout à fait dramatiques, qui disent « Moi, j'étais bon élève jusqu'en CM2, j'arrive en 6e, et ben, les profs, ils m'aiment pas, et je vais bien leur rendre, et je vais me venger contre le système. » Voilà, c'est ces moments-là où ce qui est paradoxal, c'est que c'est les élèves qui croyaient le plus dans ce que le système scolaire allait leur apporter, qui deviennent les principaux chahuteurs, à proportion de l'amour déçu qui est le leur. Hein. Dire que l'idée que les élèves se comporteraient mal parce qu'ils sont comme ça ou que les parents ne se lèvent pas le matin, c'est évidemment une idée à laquelle il faut renoncer très vite si on veut être sérieux, et comprendre au contraire que les élèves se comportent mal parce qu'ils n'apprennent pas, et que c'est agréable pour personne de ne pas apprendre à l'école, surtout quand vous êtes évalué, qu'il y a des copains qui vous évaluent aussi. Donc il y a des comportements qui doivent, je crois, nous ramener aux questions fondamentales de qu'est-ce qu'on apprend et pourquoi on n'apprend pas. Il y a quelques caractéristiques de la forme scolaire républicaine, je crois, que je fais rapidement. Elle est très centrée sur le cognitif. Hein. Elle laisse en particulier les pratiques culturelles aux portes de l'école. Quand elle les intègre, on voit bien qu'elle les intègre d'une manière marginale en France. Les élèves sérieux savent que, ouais, d'accord, la musique et la flûte à bec, la douce, je ne sais pas si ça se fait toujours. À l'époque, il y avait des rayons de supermarché au mois de septembre qui en étaient pleins parce qu'il y avait un marché. Mais bon, ils voient bien que ça, il y en a en sixième et un peu après, mais qu'après, ce n'est plus tellement la peine d'insister parce que ce n'est pas les vraies matières qui vont être significatives. Et si on a des activités culturelles, on les aura à l'extérieur. Donc, les pratiques culturelles, elles sont aux portes de l'école. Et un des présupposés concernant le troisième registre, c'est, je crois, que les jeunes sont déjà supposés être des élèves. Hein. À la manière dont, quand on fait signer des contrats à des élèves, là on dit, bah, t'as pas été sérieux, maintenant tu vas signer un contrat. C'est-à-dire qu'on suppose que c'est un sujet de droit qui est capable, parce qu'il va signer le contrat, de s'engager à des choses auxquelles il n'était pas engagé jusque-là. C'est-à-dire d'une certaine manière, on suppose le problème résolu, une espèce de cercle, croit, qui fait qu'on suppose que c'est une personne autonome, là où précisément son comportement montre qu'elle n'était pas une personne autonome. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lui faire signer, mais il y a une croyance magique, ou alors peut-être de se mettre à l'abri, on dit, ah, maintenant tu as signé, tu es responsable. Or, de toute façon, on le sait bien, quand un élève franchit avec ses pieds la porte de l'établissement, il a signé le contrat puisqu'il s'engage à être un élève. Alors, juste quelques mots sur une étude de cas. Je suis désolé d'en dire peu, mais on aura l'occasion aujourd'hui et demain d'en parler, notamment par rapport à la collègue de cet établissement qui est ici, qui va se sentir frustrée que je ne dise pas grand-chose. Nous travaillons en ce moment sur ce qui s'appelle un micro-lycée. Donc dans les 5 minutes qui restent, je vais essayer de vous en donner un petit portrait. C'est un micro-lycée de la périphérie parisienne, petite structure qui appartient, qui se réclame d'une fédération qui s'appelle la FESPI, qui doit être, on va dire, la fédération des établissements secondaires publics innovants, voilà, qui a comme caractéristique de raccrocher des élèves qui ont décroché. Des élèves qui ont décroché grave, hein, comme il dirait. C'est-à-dire que ce n'est pas juste 15 jours, c'est certains, plusieurs années, où ils ont fait toutes sortes de choses. Mais à un moment donné, ils n'en pouvaient plus, on leur fait comprendre qu'on n'en pouvait plus deux ou les deux à la fois. Donc ils sont plus dans le système scolaire et ils reviennent. Je dis ça pour nuancer un peu mon propos, parce que lorsque nous parlons des décrocheurs de ce micro-lycée, il s'agit de décrocheurs raccrocheurs. Autrement dit, ce n'est pas les décrocheurs ordinaires. On a du mal à connaître les décrocheurs ordinaires, puisque par définition, on ne les voit plus. Donc ce sont des gens qui ont déjà fait un bout de chemin déjà assez considérable, qui se sont certainement requalifiés d'un point de vue symbolique, parce qu'ils ont trouvé sur leur chemin des gens, des personnes, des situations, qui leur ont dit que, après tout, les études, ce n'était pas si mal que ça, et que le projet qu'ils ont et auquel ils n'ont jamais renoncé, s'ils veulent y arriver, il faut passer le bac, et il n'y a pas d'autre solution. Donc, on est là vis-à-vis de gens pour lesquels le troisième registre, si vous voulez, est un registre qui est déjà sans doute partiellement reconstruit, ce qui veut dire que la nature du soutien qu'on peut leur apporter n'est peut-être pas la nature du soutien qu'on peut apporter des élèves qui ne seraient pas dans cette position de reconstruction d'eux-mêmes. Alors, je dis ça pour les institutions qui sont évidemment toujours demandeuse de l'essaimage, c'est-à-dire ce que vous voyez dans votre recherche, dites-nous ce que c'est et on va l'appliquer en masse. Ça, c'est évidemment, on a tous envie de ça, c'est extrêmement, c'est dangereux parce qu'il faut contextualiser les choses. Hein. Et là, ce que nous disons, ce que nous dirons à l'accès dans notre rapport sur le micro-lycée, évidemment, ça apprend des choses de décrochage et de raccrochage, mais ce n'est pas transposable en tant que tel, parce qu'encore une fois, il faudrait connaître, hein, dans leur écosystème, des élèves qui ont besoin du soutien. Donc voilà, là je crois que là, même si je ne vais pas au bout de mon rouleau là, aujourd'hui, je crois qu'il me semble qu'une des principales leçons à tirer de ça, c'est que pour diagnostiquer les soutiens et les remédiations, encore faut-il savoir ce qui est fragilisé, ce qui a besoin d'être étayé chez les élèves en question. Une des choses qui, moi, m'a donné l'idée de ça, c'est que j'ai rencontré dans ce lycée ce que j'ai appelé des décrocheurs paradoxaux. Ce que Gaëlle-Henri Panabir, dans un ouvrage qui est le sien, je crois que c'est des héritiers en échec, ce qu'elle appelle les méshéritiers. Voilà, il y a des gens qui viennent brouiller les catégories habituelles. Si les héritiers, au sens étymologique, si je peux dire, de Bourdieu-Passeron en 1964, sont des gens qui ont tout dans leur corbeille pour pouvoir réussir des études secondaires, voire supérieures, voire d'excellence, eh bien, il y a des enfants bien nés et qui pourtant ne réussissent pas à l'école. Voilà. Il y a même des enfants d'enseignants qui réussissent à ne pas réussir. On peut penser que c'est pour faire enrager leurs parents, ce que je crois assez volontiers dans un certain nombre de cas, mais ce phénomène est intéressant parce que dès qu'il y a une boiterie dans un système, ça permet d'entrer et de comprendre un peu mieux les choses. Et il y a dans ce micro-lycée, il y a des lycéens qui ont des parents magistrats, chirurgiens, chercheurs au CNRS, etc., etc., des professions qui ne sont pas infamantes en soi, et qui auraient dû les prédisposer à la réussite. Et pourtant, ils ne réussissent pas. Voilà. Mais, alors pour des tas de choses qu'on peut imaginer, hein, des divorces compliqués, des gardes alternées douloureuses, et tout ce qu'on peut imaginer, des accidents de vie, des accidents de maladie, tout s'accumulé, des chagrins d'amour, etc. Là, la vie est complexe. Hein, et vous voyez que pour arriver à être un élève bien comme il faut au bon moment et être à 18 ans en classe prépa et intégré, il faut éliminer un certain nombre d'autres choses de sa vie qui ne sont pas aussi faciles à laisser de côté. Donc, nos décrocheurs paradoxaux, ils m'ont fait comprendre que ces élèves-là, une fois qu'ils étaient revenus dans une structure où ils rencontraient des gens sympathiques, à l'écoute, et qui ne leur faisaient pas une histoire parce qu'ils avaient oublié la pochette en plastique numéro 4, se trouvaient très bien dans le système, rebouclaient avec une scolarité supérieure sans difficulté, atteignaient des taux de réussite tout à fait voisins, et parfois même pour certains d'entre eux, supérieurs aux moyennes académiques, voire nationales. Donc ça c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est les autres registres qui sont en difficulté. Enfin, c'est, nous semble-t-il, en tout cas l'hypothèse peut-être hardie que nous faisons et qui nous incite à travailler là-dedans. Je vais arrêter tout simplement parce que c'est l'heure et que les engagements sont les engagements. Juste trois mots de conclusion. Le premier, Aline et Valentin, vous ne l'aurez pas. Vous pouvez appeler Aline. Vous pouvez appeler Aline pour qu'elle revienne un autre moment si vous voulez, mais je ne vous en parlerai pas là. Synchronie et... À la demande générale, non. Non, c'est pas grave, on y reviendra. Là, on avait pris deux élèves un peu idéal typique, hein, des élèves dans cette structure-là, qui ont été, comme Aline, toujours un peu au-dessous de la ligne de flottaison scolaire, et dont on voit qu'elle a une approche assez instrumentale qui est de viser classiquement la moyenne, hein, comme beaucoup d'élèves en survie dans le système éducatif, et Valentin, qui est quelqu'un qui a bénéficié, si je puis dire, d'erreurs d'aiguillage assez extraordinaires, assez bizarres dans sa vie, qui fait que l'institution l'a maltraité, l'a mis dans des endroits où il n'aurait jamais dû être. Évidemment, mésestime de soi à un moment donné, mais des phénomènes de rebond, il décide, il dit d'ailleurs le micro-lycée, moi c'est moi qui l'ai choisi, je l'ai sur internet, j'ai téléphoné, d'ailleurs il y en avait plusieurs, je suis allé les voir, celui dans lequel je suis allé, les salles étaient plus vastes et claires, j'ai trouvé que c'était mieux, les gens étaient sympas, l'autre aussi remarquait, mais bon, il a fait son marché, je ne regarde personne, il a fait son marché, et il y a une espèce de reprise en main de sa part qui est manifeste dans les entretiens qu'il fait, il a des productions extrêmement abondantes, et il est toujours présent, ce qui n'est pas le cas de tous ses collègues. Donc, on a là des différentiels de profils qui sont extrêmement importants. Et lui, il dit, moi, je viens là, c'est pour la culture. Moi, ce qu'il me faut, c'est du cognitif et de la culture. Le reste, ça va, j'en fais mon affaire. Je veux qu'on me nourrisse. Hein. D'ailleurs, moi, les profs, je ne les tutoie pas, ça ne m'intéresse pas. Les autres les tutoient, moi, ce n'est pas mon truc. Moi, je suis à l'école. Donc, je pourrais développer. Des dispositifs à mobiliser, une autre caractéristique qui nous paraît... surgir de ce début de travail sur le micro-lycée, c'est que les dispositifs, et il y en a des masses, hein, depuis que ce micro-lycée existe, je crois que c'est une caractéristique de beaucoup de structures innovantes, c'est que les gens sont très mobilisés eux-mêmes, et donc ne cessent d'une année sur l'autre de rajuster les choses. Ça nous avait frappé quand on avait travaillé sur les internats d'excellence. Il y a des gens extrêmement réactifs qui essaient de tirer les leçons de ce qu'ils voient, qui d'ailleurs étaient friands du regard qu'on pouvait leur apporter, et qui vont très très vite, à tel point que pour la recherche, c'est ennuyeux. Si on commence à travailler sur quelque chose, après ça n'existe plus, et c'est en plus de votre faute, parce que vous avez eu le tort d'en parler aux enquêtés. Les dispositifs en soi, ils signifient pas grand-chose. Ils peuvent exister formellement, ils relèvent de la mobilisation. Je crois que là, il ne faut pas regarder simplement les listes de dispositifs. Parce que quand nous regardons les listes et que nous en discutons avec les collègues du micro-lycée, ils disent « Ah oui, mais ce que tu sais pas, c'est que ça, on le fait au premier semestre, et puis on le fait plus au deuxième, et on l'a fait dans telle optique et autre. » Et on commence à avoir une vision qui est totalement différente de celle qu'on pouvait avoir quand on a lu la plaquette de rentrée ou l'organigramme. Et là, donc, il y a une manière de s'approprier les choses qui est tout à fait indigène, hein, et dont on ne peut pas faire l'économie du détour. Le quatrième point sur lequel j'insisterai, c'est que ce qui nous semble... dans cette structure-là, c'est qu'on a sans doute plus, pour employer la terminologie de Yves Clos, hein, psychologie du travail, on a affaire à des juxtapositions de styles d'enseignants et certainement pas encore, je dirais, à un genre professionnel comme quelque chose de plus homogénéisant, comme quelque chose qui pourrait arriver à construire des règles du métier faisant précisément l'objet d'exportation. Parce que c'est quand même ça qu'on vise dans ces structures innovantes. Ou alors on accepte qu'elles meurent avec l'inventeur et qu'on recommence à l'infini ce genre de choses-là et qu'on redécouvre la roue à chaque fois. Si on essaie de vouloir capitaliser, ce qui est un peu désespérant dans le métier de pédagogue, de faire et de refaire la même chose, si on veut essayer de capitaliser et d'essaimer, ça supposerait, je crois, que l'on essaie de définir un genre de soutien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Par-delà les styles, qui sont, eux, irréductibles, les personnes sont différentes, néanmoins, elles travaillent sans doute le même objet, et peut-être que la question des registres est un des moyens de contribuer à la définition d'un genre, au lieu d'être sur des styles. C'est-à-dire, le style, c'est « regardez-moi comment je fais, j'y arrive ». Ce qui peut très bien marcher, sauf qu'on ne sait pas pourquoi on y arrive, et qu'on ne sait pas non plus pourquoi on n'y arrive pas. Donc voilà une des entrées que voudrait être notre proposition de cette affaire de registre. Ce qui pose une autre question, qui est une espèce de retour à l'envoyeur. Il faut soutenir les gens qui soutiennent. Je crois qu'on imagine de manière trop évidente qu'ils savent faire et qu'il n'y a pas besoin de les soutenir. Non, c'est un travail considérable, qui est épuisant, à la fois physiquement, parce que les gens sont présents, en tout cas dans ce micro-lycée, d'une manière absolument permanente, avec un désenclavement des tâches qui font qu'il n'y a pas de conseiller principal d'éducation. Chacun, c'est une manière d'ailleurs d'essayer de restaurer la dimension plénière des élèves, et de pouvoir opérer, voir tous les registres à la fois. C'est ça que je n'ai pas dit. Mais un des secrets, je crois, du micro-lycée et de ce genre de structure, en tout cas ce qu'ils essaient de faire, c'est de trouver des moments et des moyens dans lesquels les registres cloisonnés dans l'éducation ordinaire se trouvent mêlés, la grande difficulté étant de ne pas être dans le méli-mélo, mais d'être capable de redidactiser ce qui est appris et ce qui est travaillé. Et là, on a besoin de faire du genre. Et je m'arrête parce que j'ai dépassé les 5 minutes généreusement octroyées par mon ami Patrick Picard.